chercheur postdoctoral à l'Université du Cap en Afrique du Sud et vous travaillez notamment sur la question des investissements chinois en Afrique. Merci à tous. Gilles Guilleux, je commence avec vous. Comment est-ce que Xi Jinping s'est-il imposé comme le chef incontesté du PCC et du pays sur, il est d'ailleurs sur le point d'obtenir un troisième mandat, malgré sa gestion critiquée par certains du Covid-19 et également de la crise économique actuellement.
Votre reportage, bonjour à tous, hein, votre reportage vient de le dire, un des instruments de conquête du pouvoir a été la lutte contre la corruption qu'il a initiée en arrivant en 2012. Une lutte contre la corruption qui certes a été une occasion pour éliminer un certain nombre de ses adversaires, mais qui a été pour grande partie bienvenue et qui a été une source de légitimité pour renouveler pour le Parti communiste. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est de souligner combien ce dirigeant en poste aux affaires depuis maintenant une décennie a tourné le dos avec un certain nombre de pratiques qui prévalaient depuis le début des années 80, c'est-à-dire depuis le lancement des réformes par Deng Xiaoping. Il a concentré, on vient de le dire, les pouvoirs comme jamais aucun des dirigeants chinois ne l'a fait, en mettant fin à une pratique qui s'était installée, qui était la collégialité. Désormais, sur tous les sujets, les décisions ultimes sont prises par le secrétaire général du Parti communiste, alors que l'usage était de partager les responsabilités.
Oui, Jean-Louis Roca, Xi Jinping va rester au pouvoir avec donc des pouvoirs renforcés, ce qui ferait de lui le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao Zedong. On lui reproche, comme le disait Gilles Guilleux, d'avoir écarté ses potentiels rivaux sous le couvert de la lutte contre la corruption, mais il est aussi crédité d'avoir sorti des millions de Chinois de la pauvreté. Pour vous, quelle est un peu sa force entre tout ça?
Oui, je crois qu'un élément important, et ça rejoint un peu ce que disait Gilles Guilleux, c'est-à-dire qu'il y a, il y avait dans les années, disons, à la fin des années 2000, disons, un sentiment général que la Chine devait changer un peu de politique dans certains domaines. Il y avait beaucoup de problèmes, il y avait des problèmes de pollution, il y avait des problèmes de corruption, il y avait, comme vous le dites, et j'y reviens, les problèmes d'inégalité sociale, et les gens avaient globalement un peu l'impression que de se retrouver finalement dans un pays qui allait être de plus en plus, ressembler de plus en plus finalement aux États-Unis d'une certaine façon, avec des très fortes inégalités, avec un rôle extrêmement important de l'argent et un rôle de moins en moins important de l'éducation et de la politique. Et donc d'une certaine façon, Xi Jinping est effectivement un personnage qui est apparu comme pouvant symboliser un changement de politique par rapport à ça, c'est-à-dire avoir une croissance plus égalitaire, la lutte contre la corruption, la lutte contre la pollution, disons d'améliorer globalement la vie sociale en Chine, d'améliorer la vie quotidienne aussi, et c'est sur ces bases-là, disons, qu'il a pu renforcer aussi son pouvoir, parce qu'il a réussi finalement à montrer, c'est pour ça qu'il est, il faut le dire, assez populaire dans la population chinoise, c'est-à-dire qu'il a montré qu'il était capable de transformer la croissance, disons, dans une croissance qui est plus égalitaire, qui surtout fait monter en nombre la classe moyenne, c'est-à-dire qu'arriver à une situation où la Chine finalement serait composée de gens qui seraient ni pauvres ni riches, et donc bien évidemment a réussi à faire en sorte que la pauvreté, en tout cas la pauvreté absolue, est énormément reculée. Effectivement, aujourd'hui, on voit qu'il y a une population importante en Chine qui vit comme une classe moyenne, et même comme une classe moyenne parfois qui ressemble à celle des pays européens.
D'accord. Alors, Khalil, l'an dernier, le président Xi Jinping avait dit aux médias publics chinois que la Chine devait élargir, entre guillemets, son cercle d'amis. Et en Afrique, comment cette offensive de charme s'est manifestée ces dernières années?
Oui, en fait, c'est un peu dans la poursuite de la stratégie de ses prédécesseurs, en fait, qui, à la fois, en fait, ont permis à la République populaire de Chine, en fait, d'élargir sa politique africaine en ayant le maximum de soutien sur le continent africain, et aujourd'hui, à réduire, en fait, comme pour le chagrin, l'influence de Taïwan sur le continent. Donc, cette offensive de charme s'est inscrite en fait sur plusieurs en fait, fronts, en fait, à la fois sur le plan des le domaine des infrastructures où la République populaire de Chine en fait, a accompagné un certain nombre de gouvernements africains à construire des autoroutes, des chemins de fer, des bâtiments publics. Associé à cela aussi aux offres de bourse que la République populaire de Chine fait en fait au gouvernement africain, sans oublier aussi l'envoi des médecins au PNI, l'envoi de coopérants agricoles. Donc toute cette offensive-là s'est inscrite en fait dans cette dynamique-là pour avoir en fait un ancrage africain beaucoup plus affirmé, et cet ancrage-là, on en dit, ça s'est en fait manifesté avec un volume commercial très important qui fait que la Chine est devenue aujourd'hui le premier partenaire commercial du continent africain, mais aussi sur le plan des investissements, on a noté aussi que le volume d'investissement de la Chine a augmenté. Avec l'organisation du forum de coopération chinoise, donc cette stratégie qui consiste à avoir...
Il y a quelques petits soucis avec la ligne de Dakar, mais on a bien compris l'argumentaire de Khalinho. Alors Gilles, Guy, comment est-ce que la Chine peut-elle devenir la première puissance mondiale tout en restant, tout en mettant au pas une société qui quand même aspire à plus de liberté, sans oublier bien entendu la question de Taïwan?
Ouais, première remarque, que la Chine devienne la première puissance économique mondiale ne devrait pas nous étonner. C'est juste c'est un juste retour des choses. Je veux dire, la Chine a été longtemps la première puissance à l'échelle du globe. Elle a raté le tournant de la révolution industrielle et elle a rattrapé le retard pris. Donc, on ne devrait ni s'étonner, ni se scandaliser du fait que la Chine soit une puissance mondiale. Mais c'est vrai que les défis sont extrêmement nombreux. Le ralentissement de la croissance économique, hein, désormais moins de 6%, alors qu'on a connu longtemps des taux à deux chiffres. L'augmentation du chômage, le chiffre que tout le monde commente, 20% de la jeunesse est sans emploi. Le vieillissement de la population, avant que le pays soit riche, la population va devenir vieille. On l'a dit, la question des inégalités sociales. Et puis, somme toute, la sortie du Covid, qui est quand même un problème à gérer. Car aujourd'hui, la population vit très durement. Les restrictions qui pèsent sur sa vie quotidienne, hein, certaines parties de la population se fait tester une à deux fois par jour. Et donc la vie quotidienne de la population urbaine s'organise autour de la question du Covid. Et il me semble que l'un des acquis de la réforme, c'était la mobilité de la population.
D'accord.
C'était la possibilité de donner à tout le monde de se déplacer. Et tout d'un coup, plus personne ne peut se déplacer. Ça fait 3 ans que ça dure.
D'accord. Alors Jean-Louis Roca, d'ici 2049, la Chine ambitionne donc d'être la première puissance mondiale. C'est vrai qu'il peut se passer beaucoup de choses en 27 ans, hein, mais la Chine aujourd'hui, quels sont ses atouts? Peut-être quelles sont un peu ses limites pour atteindre cet objectif?
Oui, parce que la question de la croissance, et c'est une chose, mais ça dépend de quelle croissance aussi. Hein. Les vrais défis, je crois, c'est sur la question de la technologie, c'est-à-dire est-ce que la Chine sera capable de remplacer, ou en tout cas d'égaler, par exemple, les États-Unis en matière de technologie. L'autre, effectivement, défi, ça va être l'emploi. On peut avoir une croissance très importante, on peut avoir un pays qui est relativement riche, mais s'il n'est pas capable de produire les emplois nécessaires, ça va être évidemment un autre problème. Et puis il y a la question de la distribution de cette richesse de la puissance économique de la Chine. Est-ce qu'effectivement elle va réussir à rendre la société plus égalitaire? Donc c'est effectivement sur tous ces défis que l'on va voir ce que peut faire aujourd'hui la Chine, en rappelant tout de même que, quels que soient les débats qu'on peut avoir sur la puissance extérieure de la Chine, sur la technologie, sur la Chine en Afrique, etc., il y a un élément quand même qui est très important, c'est la stabilité politique et économique. Et cette stabilité politique et économique est basée sur la stabilité sociale, c'est-à-dire sur une espèce de contrat social qui existe aujourd'hui entre la population chinoise et le parti. Ok, on accepte les restrictions de liberté, ok, on accepte le parti unique, mais en échange, il faut que l'on ait une vie agréable, il faut que l'on ait des revenus conséquents, il faut qu'on soit de la classe moyenne, il faut qu'on ait des opportunités personnelles en matière d'éducation, de voyage, de loisirs, etc., etc. Et donc c'est cet élément-là aussi qui est très important. Il faut une croissance qui soit pour une part redistribuée. Effectivement, on voit bien le défi parce que Xi Jinping a aussi noté qu'il a insisté sur le fait qu'il faudrait dorénavant que les riches payent un peu plus, que les profits soient mieux redistribués, etc., etc.
D'accord.
Donc, on voit bien la question, c'est comment avoir cette économie à la fois performante, technologiquement performante, mais aussi, je dirais, socialement
équitable.
Et politiquement performante.
D'accord. Et Khalil, depuis, et vous le disiez un peu plus tôt, hein, depuis quelques années, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique, mais est-ce que finalement, l'Afrique n'est pas plus un instrument de l'influence diplomatique de la Chine, notamment avec le grand bloc qu'elle a aux Nations Unies, plutôt qu'un réel partenaire commercial. Certains pointent souvent la question de la dette chinoise comme un réel problème.
Il est clair qu'en fait, si on regarde bien en fait, le volume des échanges commerciaux entre la République populaire de Chine et les pays, il y a en fait une sorte de déséquilibre dans la balance. En fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la Chine qui gagne beaucoup plus en fait, dans ces échanges que le continent africain, où il y a peut-être un certain nombre de pays, particulièrement les pays qui exportent des ressources minières et énergétiques, qui s'en sortent. Mais si vous prenez par exemple le cas d'un pays Sénégal, la balance commerciale, elle est très très déficitaire par rapport à la Chine. Donc ce qui fait que quelque part, en fait, ça ne permet pas en fait à un certain nombre d'États qui s'inscrivent dans cette dynamique-là de pouvoir, à mon avis, porter un embryon d'industrie chez eux. Donc à ce niveau, je pense qu'il y a lieu de revoir un peu en fait la nature de ces relations. Maintenant, sur la question de la dette, en fait, qui est assez souvent agitée, moi je pense que quelque part, en fait, les pays africains, au regard en fait du déficit sur le plan des infrastructures, ils ont besoin en fait de s'endetter auprès de la République populaire pour pouvoir en fait construire, parce qu'en fait le déficit est immense sur le continent. Le besoin de construction est énorme. Certains même qu'on disent en fait que nous avons besoin de presque 70 milliards de dollars pour pouvoir véritablement rattraper en fait le déficit que nous avons, pour pouvoir faciliter en fait les échanges commerciaux, pour pouvoir faciliter la mobilité au sein du continent.
D'accord.
Donc à ce niveau, je pense que par rapport en fait à la dette, les pays africains ont besoin de s'endetter. Maintenant,
d'accord,
il faut, à mon avis, sur la nature des constructions, sur ces entreprises chinoises-là, qui construisent, parce que cette dette, à mon avis, bénéficie beaucoup plus en fait aux entreprises chinoises qui gagnent ces marchés-là qu'aux entreprises africaines. Donc c'est à ce niveau qu'il va falloir, à mon avis, poser le doigt et essayer de renégocier en fait ces
affaires. D'accord. Alors on va rapidement lire quelques commentaires laissés sur la page Facebook de VOA Afrique. Il y a Marcelin Kofi est à Abidjan. Il dit que la Chine a les moyens de ses ambitions. C'est pour cette raison que les États-Unis essaient de contrer l'influence chinoise en Afrique et le reste du monde. Mais pour atteindre cet objectif, le peuple chinois doit faire de la démocratie une réalité. Alphonse Mbouaki est à Kinshasa. Il écrit: ce 20e congrès est aussi la promesse d'une certaine continuité politique avec les outils de surveillance offerts par les nouvelles technologies. Il faut s'attendre à la poursuite du totalitarisme. Archiduc Théodore Ndjamena nous dit que le partenariat de la Chine avec l'Afrique est un succès, notamment dans la construction des infrastructures et la technologie. Voilà, merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une très courte pause.
Se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits. petit plat.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous.
Pour la seconde partie de Washington Forum. Et je rappelle nos invités à Paris, Gilles Guilleux, professeur à l'Université Paris-Cité, spécialiste de la sociologie de la Chine et de Taïwan. À Paris toujours, Jean-Louis Roca, professeur à Sciences Po, sociologue également, spécialiste de la Chine. Et à Dakar, Ibrahim Khalil Nyon, chercheur postdoctoral à l'Université du Cap en Afrique du Sud. Il travaille essentiellement sur la question des investissements chinois en Afrique. Alors, Gilles Guilleux, pour parler un peu de la perspective européenne de tout cela, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a déclaré cette semaine que la concurrence, le concurrent, qui est la Chine, a clairement pris le pas sur le partenaire. Je le cite ici. Alors, l'Europe doit-elle voir la Chine comme un partenaire, un concurrent, un arbitre dans la rivalité États-Unis-Chine ?
Oui, un retour d'abord sur la question des relations avec les États-Unis, parce que le vrai concurrent de la Chine, et du point de vue de la Chine, hein, celui qui intéresse la Chine, ce sont les États-Unis. Hein, je veux dire, c'est par rapport aux États-Unis que la Chine agit. Du côté des États-Unis, il y a, enfin, si vous lisez la presse américaine, il y a une véritable obsession chinoise. Les Américains, la presse, les médias américains manifestent une inquiétude démesurée face à la montée en puissance du géant chinois, qui, comme je l'ai dit, c'est juste un juste retour des choses. Il me semble que du côté de l'Europe, la situation devrait être différente, car nous savons qu'il y a toute une série de questions internationales qui ne peuvent être réglées qu'avec la Chine. Donc c'est notre intérêt de construire une relation avec la Chine sur le changement climatique, sur la question des chaînes de valeur globalisées et du commerce mondial. Le problème, c'est que, et nous en prenons conscience tardivement, la Chine a très longtemps joué les pays européens les uns contre les autres. Et donc, du côté de l'Europe, ce qu'il faut construire, et c'est à nous de le faire, c'est une position commune, et ça ne sera pas facile, sur les relations avec notre partenaire chinois, qui est un partenaire, encore une fois, indispensable pour régler les grandes questions internationales.
Et Jean-Louis Roca, dans ce duel entre les États-Unis et la Chine, comment est-ce que l'Europe doit ou peut tirer son épingle du jeu tout en défendant quand même des principes comme les droits de l'homme, la démocratie ?
Ben, il faut dire, il faut rappeler peut-être une chose importante, c'est que précisément l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, c'est aussi l'affirmation globale, hein, parce que je crois qu'il y a Xi Jinping, mais il y a aussi autour de lui des gens qui le soutiennent, mais aussi des factions. Hein, il faut rappeler que tout n'est pas aussi simple que ça. En tout cas, un des éléments fondamentaux de Xi Jinping, c'est l'idée que la Chine peut continuer à se développer à condition qu'elle ne se soit pas complètement absorbée, qu'elle ne soit pas complètement fondue, on pourrait dire, dans le système dominé par les Américains. Le fait, par exemple, que les hommes d'affaires chinois doivent rester absolument totalement loyaux à la Chine et au parti, précisément, on doit résister aux sirènes des États-Unis concernant la démocratisation, etc., etc. Donc ça, c'est un point très, très, très important, je crois. Et dans ce contexte, la situation des pays européens est quand même assez variée. Il faut rappeler qu'il n'y a pas une situation identique. Par exemple, l'Allemagne est très 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 impliquée dans ses relations économiques avec la Chine. Hein. On parle bien évidemment de l'industrie automobile. Et puis un autre élément fondamental, c'est qu'il ne faut pas oublier que les économies aujourd'hui, grâce à la globalisation, sont totalement liées les unes aux autres. C'est-à-dire qu'on voit bien, par exemple, dans l'embargo concernant un certain nombre de matériel de la part des Américains vers la Chine, ça pose des problèmes parce que, par exemple, Apple, qui est installé en Chine, a besoin de ce matériel pour ses ordinateurs, et qu'un certain nombre d'opérateurs américains ou un certain nombre d'opérateurs européens vont...
Notamment la question des semi-conducteurs. Et effectivement, Khalil Nyon, lorsqu'en Afrique on se bat pour une démocratie, mais on vend contre aussi le modèle de réussite économique de la Chine où il y a des restrictions de très poussées des libertés individuelles. Est-ce que le continent ne se trouve pas un peu dans un dilemme? Le modèle chinois n'est-il pas plus attirant pour beaucoup de jeunes qui luttent en même temps pour la démocratie dans leurs pays respectifs?
En fait, si vous parlez en fait des États-Unis d'Amérique, cette relation-là, c'est important en fait, parce que pendant longtemps en fait, les États-Unis d'Amérique se sont un peu désintéressés du continent. Et c'est suite en fait à cette présence chinoise-là qu'il y a le renouveau américain. Et ce renouveau américain aujourd'hui se traduit par des programmes comme le Millennium Challenge Point, qui aujourd'hui fait que des entreprises américaines signent des mémorandums avec des pays comme le Sénégal pour un montant qui avoisine les 580 milliards de francs CFA. Juste pour vous dire, par exemple, en termes de modèle, par exemple, c'est comme si, en fait, les États-Unis d'Amérique, aujourd'hui, sont en train de copier un peu le modèle chinois sur le continent, au point, en fait, eux aussi, d'arriver sur le continent avec leurs propres entreprises pour avoir aussi cette influence. Donc, quelque part aussi, la Chine, à mon avis, autant, en fait, on peut lui faire des reproches, mais elle a permis aujourd'hui à ce que les États-Unis d'Amérique, qui un moment s'est désintéressé totalement des affaires africaines, aujourd'hui, devient en force, s'intéresse en fait à nouer de nouveaux partenariats avec des pays africains, mais aussi implique en fait ces entreprises au point que de grands contrats aujourd'hui sont signés par des entreprises américaines, des États africains. Maintenant, sur la question des modèles, moi je pense qu'on en parle beaucoup. Et c'était aussi agité par un certain nombre de dirigeants qui aujourd'hui, pour légitimer en fait le coup du troisième mandat ou le mandat à vie, ont tendance à agiter le modèle chinois sous prétexte que pour pouvoir son pays.
Alors, je n'ai pas. Absolument. J'ai peut-être 30 secondes pour chacun sur cette question du modèle chinois. Est-il exportable? D'abord, Gilles Guille, 30 secondes.
Oui, pas de doute que la Chine exerce un leadership à l'échelle mondiale qui est d'autant plus puissant que l'Occident est en crise et que ce leadership occidental a été tout à fait dévalué par des événements récents, moins récents d'ailleurs aux États-Unis ou en Europe. Donc il y avait une place à prendre et la Chine n'a pas hésité à la prendre. Savoir s'il est exportable, il y a plein de très très nombreuses réponses qui pourraient montrer qu'il y a des limites à cette exportation.
D'accord. Et vous, Jean-Louis Roca?
Je pense que, comme beaucoup de sociétés, la société contemporaine chinoise est une société qui a une histoire. Et donc, c'est difficile de faire fi de cette histoire très, 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 très spécifique de la Chine quand on parle de modèle. Est-ce qu'il y a véritablement un modèle? On peut dire que, plus exactement, c'est une succession de tentatives de suivre des modèles qui a abouti à la situation actuelle. Donc, s'il fallait que chacun des pays reprenne cette histoire extrêmement complexe, de modèles, d'abandon de modèles, etc., ce serait évidemment très, très compliqué. Mais effectivement, le seul modèle qui existe d'une certaine façon quand on regarde la Chine, c'est l'idée qu'un pays avec un seul parti unique peut se développer, et y compris avoir une classe moyenne, ce que beaucoup pensaient que c'était pas possible. Donc peut-être que le modèle,
merci
ça,
beaucoup.
On peut mettre à la fois la dictature et le développement.
Merci beaucoup à tout le monde. Je vous invite en tout cas à poursuivre la discussion sur nos différentes plateformes digitales fin de ce Washington Forum. Merci à mes invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.